Bonsoir à toutes et à
Tu
tous.
devrais mettre le maillot, quoi.
Et
Ils vont te faire insulter.
bienvenue dans le Club Pancho. Nico qui me foire mon entrée totale. Il n'y a pas de problème. Oui, tu peux mettre ton maillot de Jean Nguessan. Il n'y a pas de souci. Nico, fais-toi plaisir. Bienvenue dans le 99e numéro du Club Pancho. On arrive tout doucement vers la centième. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce dimanche soir. Eh bien, sur Twitch, en direct, pour parler de l'OGC Nice. Vainqueur hier du FC Metz par la plus petite des marges. 1 à 0, un but d'Evan Guessant sur penalty. Nice qui eh bien, consolide cette place de dauphin et qui voit aussi ses concurrents directs perdre des points sur cette place de deuxième. Pas mal de choses à dire sur ce match. On va pas se le cacher, on n'a pas vu du grand, grand, grand football hier après-midi. Mais quand même, pas mal de choses à aborder avec vous. Aussi une page mercato dans un premier temps. On va parler du match avec déjà le collègue Anto. Qui est là avec nous ce soir. Salut Anto, comment tu vas?
Bah écoute, très très bien, ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir d'encore prendre 3 points, même si c'était pas très très bon, mais on continue à avancer, surtout vu les résultats des autres. Et puis une stat qui tient cher à mon père, c'est la première fois que Stéphanie Frappard arbitre un match de Ligue 1 cette saison et que l'équipe à domicile gagne, donc ça fait plaisir.
Ça, c'est de la stat. Mais effectivement, Nissar Détat qui nous dit bonsoir et bravo les Bleus. Effectivement, petit clin d'œil à l'équipe de France de handball, championne d'Europe. C'était pas mal. Un revenant, il n'est plus dans sa voiture et la connexion passe pour l'instant, tout va bien. C'est Nico, fan numéro 1 de Johan Guessant. Salut Nico, comment tu vas?
Bah écoute, comme un supporter d'un club qui est deuxième au classement, donc ça va très bien.
Écoute, content que tu sois là et forcément invité adverse, un habitué de l'émission, j'ai envie de dire, c'est Soquette de la maison du Grenat. Salut Soquette, comment tu vas?
Bonsoir tout le monde. Bah, je peux pas dire très très bien non plus, on veut pas exagérer, hein, mais voilà quoi. Lendemain de match, donc on récupère tout doucement. Peut-être mieux que les joueurs, je sais pas.
Écoute, donc dans un premier temps, on va parler du match et profiter de ta présence pendant une bonne demi-heure. Et dans un deuxième temps, on continuera à parler du match, messieurs, si vous avez des choses à rajouter. Mais on parlera également mercato parce que, mine de rien, sur les derniers jours, il y a eu pas mal de mouvements, autant dans le sens des arrivées que des départs. Donc, messieurs. Victoire de l'OGC Nice 1 à 0. On va parler peut-être de la composition dans un premier temps avec le retour notamment de Khéphren Thuram dans le 11. Boudaoui de retour dans le groupe après l'élimination des Fennecs lors de la CAN. La centième de Melvin Barre sous le maillot de l'OGC Nice aussi, j'aimerais qu'on en parle. Mais globalement, ce 11, Anto, pour commencer et attaquer tout doucement. On était sur quelque chose d'assez classique, le retour de Youssouf aussi au poste de numéro 6, la titularisation de Shaw également sur le côté gauche, finalement assez classique, ou est-ce que tu t'attendais à éventuellement à autre chose?
Non, pour l'instant, on sait que Valentin Rozier est encore juste. Ce sera sans doute lui qui prendra un peu de temps de jeu à Le Tomba dans quelques matchs. Il y aura aussi peut-être Rosario qui reviendra au milieu. Mais globalement, sur ce match, on était assez sûr qu'on allait avoir ça. Et ça fait surtout très plaisir de revoir Khéphren Thuram sous le maillot de Nice. Quel bonheur de voir un joueur comme ça quand même.
On en parlera, hein. C'est un point, hein. Clairement le retour de Khéphren Thuram au milieu de terrain qui a fait beaucoup de bien à l'OGC Nice. Nico, ce 11, on était sur quelque chose, voilà, je le disais, de classique, avec un Hichem Boudaoui de retour dans le groupe. Est-ce que tu vois des surprises, peut-être ouais, un Gaëtan Laborde encore exilé sur un côté au profit d'un Evan Guessant dans une bonne forme sur les dernières semaines?
Ouais, compo cohérente et qui ressemble à ce qu'on voit depuis le début de saison, donc non, pas surpris. Laborde à droite, il faudra s'y faire. Hein, dans les replis défensifs, qu'on le veuille ou non, il est hyper important, même si on peut en attendre plus. Dans la vision de Farioli, c'est cohérent et pas de surprise.
Soket, tu avais parlé lors de la dernière émission, lors du match aller, d'un retour éventuel de Miko Tadze au mercato hivernal, chose faite. Bon, il n'était pas à 100%, mais clairement, avec les problèmes offensifs que rencontre le FC Metz, qui était avant la rencontre, je le précise, sur une série de 5 défaites en Ligue 1, plus une élimination en Coupe de France. Vous êtes dans une période pas évidente, et le retour d'un joueur de ce niveau-là vous permettra d'avoir un peu plus de chances de remporter cette mission maintien, on va dire.
Oui, même si ça avantage très bien Bologna d'avoir une telle individualité supplémentaire dans l'effectif, hein, vu que, comme je l'avais dit au match aller, et les résultats le montrent, et le jeu lui-même le montre, que bah, il va falloir se reposer sur les qualités de tes joueurs plutôt que le collectif, quoi. Et donc, oui, ça va. De toute façon, il va falloir quand même se reposer sur quelqu'un comme lui, parce que bah, il n'y a pas d'autre élément offensif qui aujourd'hui se démarque énormément. Bon, voilà quoi. C'est... Il vient de revenir. Le problème qu'il y a, c'est que ça va commencer à jouer contre nous, quoi, le temps. Et on en parlera un peu plus en détail dans le contenu du match de Metz, mais. Pas qu'il prenne trop de temps non plus, parce que sinon, entre guillemets, il n'aura pas un apport décisif, notamment sur le mois de février qui s'annonce capital pour Metz, quoi.
Alors, ce match remporté par le OGC Nice, 1-0, un but sur pénalty d'Evan Guessant, je vous l'ai dit. Votre ressenti un peu sur cette victoire, courte victoire, comme j'ai dit en introduction, pas très très beau. Franchement, on n'a pas pris un plaisir monstre, on ne va pas se le cacher. Mais malgré tout, est-ce que Anto, pour toi, c'est une victoire méritée pour l'OGC Nice sur le contenu de la rencontre?
Ouais, bien sûr, sur l'ensemble du match, je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est mérité, et puis c'est une victoire... C'est vraiment la victoire de champion. Alors, on sera sans doute pas champion à la fin de la saison, et le Paris Saint-Germain, mais on va dire une victoire de Champions. C'est dans ces matchs-là que tu vas aller récupérer tes points qui, à la fin, feront la différence. C'est ce qu'on perdait l'année dernière et toutes les dernières années. Et là, cette année, on l'a gagné, donc ça, c'est cool.
Ouais, Nico, en fait, sur les dernières saisons, on s'apercevait que même en étant prétendant à l'Europe, on arrivait à perdre des points contre des équipes entre guillemets jugées plus faibles. Hein. On l'a vu notamment sur l'année dernière sous Digard, ou même il y a 2 ans sous Galtier. Là, finalement, on arrive à accrocher des victoires. Alors, un peu à l'arrache. Hein. Hier, c'était vraiment à l'arrache, on peut le dire. Mais finalement, 3 points supplémentaires qui te permettent de rêver d'une qualification éventuelle en LDC.
Ouais, bah, c'est une victoire à la niçoise. C'est une victoire à la niçoise. J'ai l'impression que cette équipe, elle construit ses victoires sans s'affoler, en fatiguant l'adversaire. Et puis, à un moment donné, elle sait qu'il va y avoir un fait de jeu ou ce petit truc en plus qui va te permettre de l'emporter. Alors, les observateurs extérieurs diront que c'est de la réussite, que c'est de la chance. Mais au final, je disais hier sur Twitter justement qu'à domicile, on a intraitable. Et ça, c'est une force qui est... Enfin, c'est une donnée qui est très, très importante, je pense, pour une équipe qui veut jouer le podium. Quand t'as pris que 2 buts en championnat à domicile, c'est fort. Et tu as 10 victoires. Donc, à un moment donné, si tu dures comme ça dans le temps, c'est que c'est pas que de la réussite, c'est que cette équipe, elle est cohérente. Elle n'est pas encore spectaculaire, mais il a très bien dit Farioli avant le match en disant qu'on n'avait pas encore vu l'équipe que l'on devait être. Donc, si dans ce processus d'apprentissage et de développement, tu es déjà second, bah, ça va être quoi dans un an et demi alors ?
Ouais, effectivement, tu soulignes un élément important, c'est. La qualité des résultats à domicile, hein. On est sur un record historique à l'Allianz Riviera. Ce record avait déjà eu lieu à l'époque au Stade du Ré. Série à domicile assez impressionnante. Alors c'est vrai qu'on pointait du doigt un peu les derniers matchs à l'extérieur, Anto. Mais ouais, comme le dit Nico, en fait, une grande saison passe aussi par des victoires compliquées comme on a vu hier après-midi. Mais surtout, va dépendre aussi de ta qualité et tes résultats à domicile. Là, en plus, on avait les 3 anneaux de la Populaire Sud qui étaient inhabités, inexploités. Finalement, toujours invaincu, 3e meilleure équipe à domicile. C'est une vraie force cette saison.
Ouais, puis tu sais, c'est un kiff. En vrai, pour y aller tous les ans, beaucoup de matchs. Ça change des matchs où à chaque fois que tu repartais du stade, tu avais perdu encore une fois et qu'on gagnait un peu plus à l'extérieur, je crois, les dernières saisons. Donc cette année, c'est un kiff. À chaque fois que tu y vas, tu gagnes. C'est trop bien. Même si tu n'as pas bien joué, tu t'en fous. Tu repartes, tu es dans ton bus collé, mais tu es content. Donc c'est vraiment très, très bien. Et ça crée un bel engouement, je pense.
Socket, des regrets côté Messin. Alors effectivement, on a beaucoup parlé des faits de jeu. Bon, ayant vu le match en replay, j'ai vu les commentaires avant et vu le match après. Ton avis un peu sur le contenu, est-ce que, comme le dit Anto, tu considères que la victoire niçoise est méritée? Est-ce que t'as des regrets finalement sur cette rencontre?
Alors, elle est méritée, oui, elle est méritée. Hein. Je veux dire, je crois que Nice a genre quoi, 14 tirs, 8 cadrés, je crois. En tout cas, quelque chose comme ça. Oukidja fait quand même un. Malgré le. Bon, il prend ce pénalty. Encore une fois, même si. Le pénalty, je ne pourrais pas en parler parce que même s'il l'arrête, il n'est pas légal son arrêt. Il est à 2 mètres devant la ligne. Je ne sais pas ce qu'il fait, bref. Mais à part ça, ouais, sinon, il fait des arrivées quand même décisives. Et ça peut être beaucoup plus sévère. Donc, non, Nice mérite son match et Metz a aussi bien. N'a pas été. plus impactant que ça offensivement sur la première, même si c'était pas non plus à 10 derrière quoi sur la première. Par contre, la deuxième mi-temps, on a senti que là, la confiance n'étant pas présente, ça commençait à se rattraper. Et comme ça a été dit par Miko Tadze en après-match, il disait qu'ils étaient venus pour prendre un minimum un point. T'as plus le sentiment qu'ils étaient venus pour prendre un point, quoi. Et que, en fait, quand il y a ce. Et ce qui est un peu triste, parce que quand ils prennent ce but, t'as pas cette révolte qui suit après le but. Il y a même un truc marrant, c'est con à dire, mais. Parce que c'est un autre débat sur est-ce qu'il y avait pénalty ou pas. Mais on sait qu'il y a des joueurs, ne pensant pas que c'est évident que ça, le pénalty, seraient allés en masse devant l'arbitre. Vous voyez un peu ce.
Il n'y a pas eu de contestation, révolte, effectivement.
Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, et le sujet du pénalty, on pourra en parler vite fait, mais. Avant dans le détail, c'est juste que même là on voit pas ce truc de contestation ensemble machin. En gros, c'est leur destin, ils acceptent. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, quand t'es autant résigné que ça, c'est logique que tu mettes pas ce qu'il faut pour venir derrière. Et au final, de dire que Nice méritait la victoire est évident, et encore plus évident après cette non-réaction quoi.
Penalty pour toi, Socket?
Alors. Je vais dire 50-50. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que, et on est bien placé pour en parler, en 2018, il y a eu un match entre Metz et Lens, on gagne 2-0 contre Lens, donc on est en Ligue 2 à ce moment-là. Et en fait, il y a une action où Openge, je pense que vous connaissez, part seul au but sur le ballon profondeur, et Fabien Santons, qui à l'époque est à Lens, en fait, fait la même chose que fait le Messin sur le Niçois, c'est-à-dire qu'il y a ce léger contact sur une des jambes et l'autre l'une des jambes du Niçois tape l'autre jambe. À l'époque, la décision arbitrale, alors il n'y avait pas la VAR, hein, puisqu'en plus on était en Ligue 2, il n'y avait pas la VAR, et la décision arbitrale c'était carton rouge pour Fabien Santons, et donc faute contre Lens, et donc en faveur de Metz. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas en fait si le léger contact, parce que pour moi il y a un léger contact. Beaucoup de gens qui ont commenté cette action-là, parce que malheureusement les comptes relais sur notamment les réseaux font pas leur travail, ont montré que le moment où il y a la jambe du Niçois qui touche l'autre, mais pas le petit moment où il y a ce petit contact léger. Le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui, personne ne peut le dire en fait, clairement, si à vitesse réelle, dans le ressenti, ça a un vrai impact. Et à partir de là, pour moi, c'est du 50-50, ça peut se défendre de penalty comme ça peut se combattre éventuellement. Mais on peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, ce petit léger contact. Est-ce qu'il est impactant? Je sais pas.
Le problème, en fait, c'est l'exploitation des images. C'est-à-dire qu'on a vu, en fait, la Ravanelli de Guessant, qui a tourné énormément sur Twitter à l'issue du match, notamment relayé par des comptes messins. Mais en fait, tu peux pas uniquement te baser sur ce contact-là, comme tu dis. Tu es obligé de tout prendre en considération, et notamment le léger contact qui entraîne le croc en jambe. 50-50 pour Socket. Anto, peut-être ton ressenti sur l'action menant au pénalty. Est-ce que pour toi, il y avait tout simplement pénalty sur Evan Guessant?
Mais comme je le disais un peu avant, moi je trouve que cette action, elle ressemble beaucoup au pénalty de Monaco, le premier pénalty de Monaco qu'on a eu, enfin qu'ils ont eu du coup contre nous. Ça siffle, c'est pas évident, mais c'est. Je sais pas, je trouve. C'est pas extraordinaire, mais je pense que ça siffle, et cette saison on a vu quelques-uns comme ça, donc on va dire qu'à penalty, c'est pas un truc de ouf. Voilà, peut-être c'est en compensation aussi, hein. Enfin, même si c'est bête de dire ça, mais peut-être en compensation un peu du premier aussi, et le tout fait qu'ils ont sifflé penalty, ils ont même pas regardé la VAR.
Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette situation? On peut parler, alors tu peux aussi embrayer sur Guessant, parce que on va pas faire un numéro entier sur l'arbitrage, on n'est pas là pour ça, mais tu peux juste peut-être éventuellement nous donner ton ressenti par rapport à ça.
Mais déjà, je pense qu'il faut prendre en compte qu'à vitesse réelle, pour le coup, Stéphanie Frappard, elle peut se dire il y a faute, il y a contact. Et après, il y a la notion de est-ce que Stéphanie Frappard fait une faute suffisamment grosse pour que la VAR puisse revenir sur sa décision? Parce qu'en fait, c'est ça qui compte. Et je pense que pour le coup, là, l'erreur n'est pas suffisamment manifeste, pour utiliser les termes exacts, pour revenir sur sa décision. Donc pour moi, le penalty, il est justifié. Et sincèrement, j'aurais dit la même chose dans l'autre sens. Je peux comprendre la frustration de certains médecins, parce qu'effectivement, le contact est très léger. Mais à partir du moment où elle siffle à vitesse réelle et qu'il y a ce léger contact, la VAR ne peut pas faire revenir Stéphanie Frappard sur sa décision parce que l'erreur n'est pas suffisamment manifeste. Moi, je vois les choses comme ça. Après, pour parler du match de Guessant, il prouve qu'il faut réellement compter sur lui, parce que même s'il a parfois beaucoup de déchets, dans son jeu, il t'offre beaucoup, beaucoup plus de solutions que certains. Il est capable de prendre la profondeur, de garder le ballon dos au jeu. Il enchaîne les buts. Il se crée des occasions. Il est capable de dézoner. À un contre un, il est également une option très intéressante à utiliser. Donc, ça fait super plaisir de le voir à ce niveau-là parce que c'est l'une des premières fois, je crois, que Nice prête un joueur et que derrière, il revient à Nice pour réussir. Et en plus, voilà, il sort du centre. Donc, c'est vraiment, vraiment une très, très belle nouvelle de cette saison.
Ouais, effectivement, je pense qu'il y avait peu de personnes qui l'imaginaient à ce niveau-là. Et aussi dans le jeu, dans ce qu'il propose, dos au but, il y a de la maladresse, il y a du déchet. Et c'est vrai que, alors, on a beaucoup parlé de la comparaison avec Alassane Pléa, des débuts d'Alassane Pléa à l'OGC Nice, malgré le fait que les profils soient assez différents. Mais quand même, Anto, vraie satisfaction cette saison. D'autant plus que tu n'as pas ton numéro 9, on va dire, titulaire, qui est censé être ta tête de gondole offensivement. Finalement, est-ce que Guessant aujourd'hui, c'est plus qu'une alternative au poste de numéro 9?
Bah clairement ouais, franchement j'étais un peu réticent à l'idée de voir Guessant dans le... Enfin je pensais pas qu'il serait à ce niveau-là et même qu'il serait vraiment utile dans la rotation. Au final, depuis qu'il est titulaire, il enchaîne des très bons matchs et surtout en 2024, je trouve qu'il est très régulier et que même quand ça va moins bien, bah lui il est présent. On l'a vu à Rennes où c'est peut-être un des seuls qui a eu la tête un peu hors de l'eau et là encore c'est le meilleur hier soir donc c'est vraiment très plaisant, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il faut qu'il progresse sur certains points, notamment au pressing et bien sûr à la finition où on voit que bah, des fois c'est un peu compliqué. Donc non, c'est très très bien, ça fait plaisir et puis qu'il continue comme ça. Il a sa
Deuxième
place à jouer.
penalty provoqué après celui de Lens, nous signale Alexis. Il avait provoqué aussi un rouge contre Rennes. Plutôt déterminant, même si effectivement on va pas
Le
voir ces
premier aussi,
éléments.
Ouais.
qui refusait.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et quand on sait que c'est lui aussi qui rate son penalty contre Auxerre en Coupe de France, je pense qu'il fallait aussi mentalement être présent. Puisqu'on parle d'Evan Guessant, on fait une bascule sur Jean Nguessant, mon cher Socket. Puisque, comme vous le savez, Jean Nguessant, ancien joueur de l'OGC Nice, qui n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer. Mais puisqu'on est avec Nico et puisqu'on est avec un représentant messin, du coup, peut-être un peu des nouvelles du joueur qui serait vraisemblablement en partance pour la Belgique.
Ouais, alors bon, on a un peu parlé en off, la destination, la terre belge, qui est une terre très propice à certains transferts, surtout pour un joueur qui, effectivement, n'a pas eu sa chance cette saison, clairement. Alors, on a un peu discuté en off, sans trop dire, de savoir est-ce qu'il était dans les plans dès le départ ou pas du coach. Tout ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'a pas été exploité. Réellement, sur notamment la première partie de saison, il a joué en Coupe de France contre Clermont, et on se disait, est-ce que ça allait être juste quelque chose, un test ou juste pour dans la rotation. Derrière, il joue encore contre Toulouse, mais ouais, voilà quoi, ça va se terminer pour cette saison en tout cas. Mais bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que comparé aux autres profils du milieu de terrain, il y a notamment un milieu de terrain très très jeune hein, dans l'effectif des milieux de terrain à Metz, avec des néo-pros notamment. D'ailleurs, Ndoukizi, qui était titulaire dans ce match contre Nice, est un néo-pro. Et clairement, il est, pour moi, il doit être Derren Guessant dans la hiérarchie par rapport à ce que tu dois considérer dans le rôle de chacun en début de saison. Et par exemple, là, c'est un peu anormal qu'un mec, un néo-pro comme ça, soit devant Guessant. Voilà, encore une fois, impossible de dire si Nguessan, avec la confiance d'entrée, un peu plus de rôle dans les rotations, aurait eu un impact plus important et même aurait eu fait de meilleures performances. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas assez d'échantillons de match pour dire que Nguessan était un mauvais choix, comme le fait d'être un bon choix. Et ben, c'est fini pour cette saison normalement. À voir si derrière Charleroi lève son option d'achat ou pas, mais il y a quand même un petit regret de non-exploitation du joueur pour être sympathique.
Alors, par rapport au match du milieu de terrain et dans la globalité, on a parlé de la première mi-temps qui était quand même assez intéressante côté Messin, on va dire 30 premières minutes où vous avez été haut sur le terrain. Il n'y avait pas un pressing qui était constant, mais malgré tout, vous avez gêné considérablement la première relance du gym. On parlera peut-être plus en détail des prestations individuelles après, qui ont expliqué peut-être la difficulté sur cette première mi-temps. Mais ouais, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation globale? On a parlé un peu offensivement comment ça s'était passé. Mais là, voilà, on est le 28 janvier. Metz est dans une série voilà de 6 défaites consécutives en Ligue 1. Est-ce qu'après cette prestation-là, tu arrives quand même à avoir des éléments un peu d'espoir pour voilà cette mission maintien? Parce que je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Anto et Nico, mais sur la première demi-heure, je dis pas que, enfin Metz, si Metz marque. C'est pas déconnant, quoi.
Bah, ils font pas le jeu. Après, ils étaient arrivés pour ça, ils voulaient défendre et t'avais des comptes qui étaient pas trop mal menés. En vrai, il y a eu deux trois ballons qui des centres ras de terre qui ont été repoussés par un talon, un pied de Todibo, je crois, deux fois déjà, et puis de quelqu'un d'autre. Donc en vrai, s'ils marquent là-dessus, le plan il est parfait et peut-être que tu tiens le match jusqu'à la fin. Donc voilà, ils ont joué avec leurs armes. Après, est-ce que ça suffira pour te sauver? Certainement, parce qu'il y a quand même des équipes qui sont bien plus en difficulté derrière, mais tu prends des risques, quoi.
Moi, pour donner mon avis, il y a quand même un truc qui, et je le dis depuis quelque temps, et ça dessus, je bougerai pas. Plus tu te rapproches de la fin de la saison, moins tu peux te permettre de jouer, d'avoir cette mentalité de vouloir tenir un match nul ou de jouer sur la corde raide. Il y a un fait qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, même les clubs de bas de tableau de Ligue 1 marquent des buts. C'est un fait. C'est-à-dire qu'on prend ce qui s'est passé là dans le match entre Lorient et Le Havre. Alors certes, Lorient a calé à domicile contre Le Havre, mais Lorient a claqué 3 buts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est qu'il va y avoir des équipes qui vont accrocher une victoire. Certes, qui vont peut-être en perdre une ou deux par la suite derrière, mais une victoire de défaite, c'est mieux que 2 matchs nuls et une défaite. Et malheureusement, plus on va se rapprocher de la fin de la saison, moins ça sera rentable de chercher à tenir des matchs nuls. Ça sera beaucoup plus rentable d'aller chercher des victoires parce que et de prendre des risques parce que tu ne pourras plus te permettre. Et là, encore une fois, on a une chance énorme, hein, c'est qu'on est dans un championnat qui est très très faible dans le bas de tableau. Beaucoup de points perdus par les équipes de bas de tableau. On voit que le recrutement peut aussi inverser la donne. Hein. On voit que Lorient, leur recrue, ben, Louza, par exemple, a marqué et fait une passe D contre Le Havre. Lyon a fait aussi un recrutement, ça peut aussi sortir de de la zone rouge. Il y a peut-être Clermont qui est c'est un peu plus compliqué, qui s'est affaibli. Mais sinon, à part ça, ouais, à moins de faire un exploit individuel comme on aime bien faire à Metz, de trouver une solution collective à cette problématique actuellement, je vois pas comment quoi. Donc ça sera de la chance, donc ça sera du pur hasard et puis voilà, on va jouer au dé, c'est bien.
Ou une recrue, quoi. Valentin Dessiry va sauver le FC Metz.
Ah oui.
Oui, mais en fait, c'est malheureusement, mais malheureusement, le problème, c'est que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à un moment donné, c'est comme dans la vie, c'est bien de se prendre des gamelles dans la tronche parce que c'est comme ça que tu apprends. Et si tu trouves encore un mec qui va te sauver, tu vas pas apprendre, tu vas pas sentir nécessaire le fait d'apprendre à jouer collectivement. Et l'année d'après, tu recommenceras la même chose. Et Metz, malheureusement, fait ça, parce que Metz, ça fait depuis X années qu'ils réussissent à se trouver une pirouette pour venir en Ligue 1 en se basant sur les qualités individuelles des joueurs. Et malheureusement, en Ligue 1, ça suffit plus. Aujourd'hui, les équipes jouent comme mieux collectivement que, je pense, il y a quelques années, même le deuxième partie de tableau. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça.
Ouais, effectivement, là j'ai le classement sous les yeux. Metz, c'est 16 buts marqués, c'est la pire attaque. Non, c'est pas la pire attaque.
Non, c'est pas. Non, il y a une équipe qui a 14 buts.
Clairement la pire attaque. Mais Metz est juste, on va dire, devant avec 16 buts. Clermont 14 et Toulouse 16 buts. Hein, pour information, hein, Nice est deuxième, mais a marqué 20 buts. Donc,
Mais meilleure défense.
4 de
C'est.
plus que le FC Metz. Hein. C'est pas non plus.
Juste dire une chose, c'est que tu peux te permettre de jouer défensif comme le fait Metz, mais à condition de ne pas au moins de ne pas perdre tes matchs. Ce que Metz n'arrive pas à faire. Metz prend. Et c'est ça, encore une fois, la stratégie défensive n'est pas en soi un problème. L'Atlético est, je pense, aujourd'hui un bouquin que tous ces coachs comme Bologna ont à côté d'eux quand ils s'endorment la nuit. Ils sont très contents d'avoir un club comme ça pour justifier le fait de jouer très défensivement. Mais si tu continues à prendre des buts énormément par match et que tu n'en marques pas, mathématiquement, bah, tu perds les matchs. C'est aussi simple
Ouais,
que ça.
mais après, il y a encore que l'Atlético a su faire évoluer son jeu. C'est l'Atlético
Exactement.
des années 2012, hein. Parce que,
Bien
comme tu as
sûr.
dit, le football, il a évolué et que tu peux plus te permettre de.
Exactement. Mais il y en a, ils sont restés à l'Atlético de, tu vois, de 2010-2012, quoi.
Chulismo.
Ouais, effectivement. Par rapport, on va dire, aux performances individuelles, alors, je creuse, hein, mais je cherche du positivisme côté FC Metz. Qu'est-ce que tu as apprécié déjà par rapport au dispositif tactique? Je me souviens plus à l'aller, est-ce que vous étiez aussi dans ce schéma-là?
Oui, ça bouge quasiment pas. C'est toujours un peu le même état d'esprit, à savoir qu'entre guillemets, tu t'appuies sur notamment beaucoup plus Van de Kerkhove sur le côté droit parce que lui va avoir tendance à beaucoup plus essayer de peser sur des appels en profondeur sur la défense adverse. Sabali est toujours un petit peu plus en retrait, même si c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus avoir envie d'avoir le ballon dans les pieds et d'essayer de dribbler. On l'a un peu vu vite fait en première mi-temps notamment. Mais non, c'est un peu le même schéma. Le seul regret que j'ai, c'est comme d'habitude, c'est qu'on a des latéraux, je trouve, notamment Colin, qui ne soutient pas trop l'attaque. Ce qui fait que bah, c'est des joueurs qui jouent de manière un peu tous isolés les uns des autres. Et sur la question du plan de jeu, où effectivement c'est de la contre-attaque, donc c'est de la récupération, on essaie de balancer, hein, comme l'ancien football, de balancer devant sur Van den Kerkhove et Mikotadze par exemple, mais ça reste pas coordonné. Même le pressing n'est pas coordonné en soi. Donc sinon, individuellement, il n'y a pas eu vraiment voilà, comme j'ai dit, Mikotadze, il est clairement pas encore prêt. Il y a que défensivement, ou entre guillemets, tu as la paire des deux, Kanté Traoré qui s'en sort, quoi. Et Oukidja quand même, parce que bon, même s'il fait
Oh, il fait
un
son
arrêt
match.
il fait son match, même s'il a toujours pas compris comment fonctionnent les pénaltys, il fait quand même son match. Donc voilà.
Après, à sa décharge, le pénalty de Guessant, c'est une honte. En vrai, il va falloir arrêter ça. Le mec s'arrête 8 fois dans la course de. Non, c'est ça, tu peux pas le
Alors,
faire.
tu dis que c'est une
Et.
honte, mais en même temps, il a attendu le dernier moment pour que le gardien choisisse un côté. Et donc, je trouve que c'est pas une honte. C'est juste qu'il a, il
Ouais,
a.
mais.
Après, tu sais, si tu étudies l'adversaire, tu sais que Oukidja n'est pas un bon gardien sur les pénaltys.
Ouais, mais peu importe, t'as pas, enfin, tu laisses trop peu de chance au gardien en faisant des courses comme ça. Neymar faisait pareil, il y en a quelques-uns,
Ouais,
mais
mais Anto,
c'est horrible. Après, il a raison, il a le droit, mais.
si c'est autorisé et si c'est pas
Oui.
écrit noir sur blanc qu'il n'a pas le droit, bah il profite du fait que ce ne soit pas
Non, mais
interdit, tu
je
vois ce
suis
que je veux
d'accord,
dire?
mais ça reste une honte et c'est impossible. Enfin, c'est très dur pour un gardien d'arrêter un penalty dans ces circonstances, d'après moi.
Bah après, tu peux faire comme certains. D'ailleurs, il y a une vidéo très, très fameuse qui circule de Sommer, je crois, sur les réseaux, où tu vois que ben, tu fais une feinte, hein, tu fais
Oui.
semblant de partir à droite, tu repars à gauche derrière, quoi. À un moment donné, il n'y a pas de hasard, contrairement à ce que disent certains sur les pénaltys. Il n'y a pas de hasard, quoi. Mais donc, non, je trouve que en plus, enfin, Oukidja, c'est un peu. Attention, hein, c'est un peu le Fabien Barthez du FC Metz, quoi. C'est-à-dire que c'est des gardiens, tu sais que dès le début, ils savent qu'ils ont perdu le pénalty. Le mec n'a même pas posé la balle sur le point de pénalty, qu'il a déjà perdu le pénalty, il le sait déjà. Donc c'est un peu ça, quoi.
Ceci dit, le penalty de Evan Guessant. Malgré le fait que ça ait pu perturber certains qui l'aient fait cette course-là, il est plutôt bien tiré, Nico.
Bah, il est bien tiré. Oui, il prend. Comme l'a dit l'ami Messin, je pense que c'est surtout Kidia qui plonge pas et qui donne pas d'indication à son adversaire. Après, si les gardiens partent du bon côté, il peut le sortir aussi. Bon, il a fait le taf, tout simplement. Il a pris ses responsabilités. Après l'échec contre Auxerre, il a pas tremblé. Donc, c'est très bien. Ça prouve aussi qu'il a de la personnalité et que ben, mentalement, il est costaud.
Soket, avant de te laisser, une dernière question. Ton ressenti sur la prestation de l'OGC Nice par rapport à ce que tu as pu voir autrement sur les précédentes rencontres ou alors sur le dernier match. Est-ce que tu vois cette équipe aller en LDC en fin de saison? Est-ce que tu es confiant sur cette partie-là ou pas?
Si, parce qu'il n'y a pas de hasard sur le côté, comment dire, solidité défensif, hein. Encore une fois, quand tu peux te permettre, entre guillemets, de ne pas forcément être éblouissant offensivement parlant, et que tu en es là où tu es aujourd'hui au classement, y a la solidité défensive qui évidemment joue un rôle. Et je pense que tant que tu as cette solidité-là, entre guillemets, t'as un peu ton destin entre les mains, quoi. C'est le jour où tu l'as plus, en fait, où c'est un problème. Parce que le jour où tu l'as plus, tu dois mettre autant de buts que tu en prends. Mais à partir du moment où tu l'as, comme c'est le cas à l'heure actuelle, ils peuvent aller très très loin. Effectivement, c'est pas forcément la chance des champions, mais c'est la chance en tout cas des équipes qui vont se sortir une très bonne saison, pas éblouissant offensivement, mais défensivement avec des bases très solides. Et clairement, c'est sur ça qu'il faut qu'ils continuent à s'appuyer, parce que effectivement, Evan Guessant aujourd'hui remplace notamment vos deux absents d'attaque qui sont partis à la CAN, qui ont des fois aussi un peu du mal. Mais le fait est, c'est que il faut un minimum se baser sur sur la défense, et ils ont de très bons éléments pour ça. Vous avez de très bons éléments pour ça, et c'est ce qui fera certainement votre réussite jusqu'à la fin de la saison.
Effectivement, on va en parler de la défense. Soket, un grand merci à toi. Bon
Merci à
courage
vous.
pour la fin de saison du côté du FC Metz. Au plaisir, je l'espère, qu'on se revoit l'année prochaine. Si on ne se revoit pas, ce sera peut-être de la Coupe de France. Mais en tout cas, merci encore une fois pour ta fidélité et ta venue dans l'émission.
Merci à vous, et je vous souhaite une bonne suite de débriefs.
C'est gentil,
Bonne fin de
merci.
saison.
On va, les gars, rester sur la défense, puisque c'était le sujet évoqué par notre invité. On avait pointé quelques défaillances côté Dante Todibo contre Bordeaux. Alors, Todibo revenait après 3 matchs de suspension. Clairement, on a vu un Todibo format XXL, forme internationale. Dante aussi à son avantage. Je vois que Anto fait une petite grimace. Qu'est-ce que
Ah ouais, je
tu as
suis pas
pensé?
du tout d'accord avec ça.
Qu'est-ce que tu as pensé du match des de qu'est-ce que tu as pensé de la charnière centrale?
Todibo a été excellent. On a retrouvé notre vrai JC qui avait été plus dans le mal les derniers matchs. Mais là, il a été vraiment très très bon. Il a colmaté toutes les brèches et notamment celle laissée par Dante. Dante a été très bon en numéro 10. Je tiens à le dire. Ses percées notamment et ce dépassement de fonction qu'il a fait, que Youssouf n'a jamais fait dans le match, ont fait du bien quand même, offensivement. Par contre, défensivement, c'était vraiment très compliqué, j'ai trouvé. Il s'est souvent fait prendre dans le dos. T'as un retour extraordinaire de Melvin Barre, notamment. Todibo aussi, qui le sauve 2-3 fois. Voilà, une petite aile de pigeon. Je sais pas ce qu'il a fait. C'était magnifique. Derrière, une passe pourrie où tu perds le ballon. Enfin, honnêtement, le match de Dante, moi, je le trouve pas très bon. Je trouve que globalement, son début d'année 2024, il n'est pas extraordinaire. Il est peut-être pas, je sais pas, dans le rythme. Peut-être que c'est plusieurs jours de vacances qu'il a eu en plus. Mais le temps qu'il retrouve, il a quand même 40 ans. Bon, pour l'instant, ça ne nous coûte pas non plus énormément de points, donc ça va. Mais moi, je ne trouve pas si bon que ça le match de Dante. Et par contre, celui de Todibo, il est extraordinaire.
Nico, est-ce que tu partages un peu l'avis de Anto pour contrebalancer un peu avec cet avis-là? Je vais te donner le mien. Todibo, exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je dirais même que c'est peut-être l'homme du match. Tant il a été complet dans la performance. Mais Dante, je te trouve dur, Anto, parce que c'est lui quand même qui sonne un peu la révolte à partir de l'heure de jeu. J'ai l'impression
Non mais...
en étant haut. C'est vrai que ça reste un défenseur central et qu'on le juge sur ses interventions défensives. Il est vrai qu'il a été pris une ou deux fois. Ton regard, Nico, sur la prestation, on va dire, de la charnière.
J'ai trouvé qu'ils ont bien fait ce qu'ils avaient eu à faire. Il n'y a pas eu trop d'erreurs, je trouve. Après, oui, forcément que dans le dos, Dante, il va se faire prendre. Ça, je pense qu'on ne peut pas le critiquer là-dessus. C'est l'âge qui fait ça. Et derrière, c'est aussi au bloc équipe et à ses coéquipiers de s'adapter. Et on le fait très bien. Ils m'ont rassuré, moi, parce que en fait, tout est question d'équilibre. Si tu regardes bien, les matchs où on marque des buts, ben, on en encaisse. Et les matchs où on n'en encaisse pas, on marque très peu. Les 2 ou 3 fois où tu mets 3 buts, je crois que c'est contre Paris et contre Bordeaux, ben, t'en prends 2. Et tu gagnes beaucoup de matchs 1-0. Donc tout est une question d'équilibre. Il faut réussir à trouver cette folie offensivement, en mettant un peu plus de créativité, en prenant plus de risques, sans pour autant trop se déséquilibrer. Maintenant, hier, c'est un match comme on a vu déjà beaucoup depuis le début de saison. Donc, je trouve qu'ils ont tous été costauds défensivement, de Guessant à Boulka. Donc, Todibo est sorti du lot parce que, ben voilà, on sait qu'en contre 1, on risque pas grand-chose. Même s'il s'est bien fait déposer sur un double contact de je sais plus quel attaquant de Metz en deuxième période. Moi, Todibo, je l'ai trouvé très bon. Mais je tiens quand même à dire que ça fait quelques matchs que, sur certaines interventions, je le trouve un peu plus facile que d'habitude, moins méchant, moins efficace, moins tranchant. Peut-être qu'aussi, il y a ce nouveau statut à digérer, il y a plein de choses, hein. Et je pense qu'il doit le savoir lui-même. Mais après, concrètement, enfin, globalement, ils ont tous été au niveau pour moi derrière.
Alors, on va rester sur la ligne défensive, parler peut-être des latéraux. J'aimerais quand même qu'on parle du match de Jordan Lotomba. J'ai l'impression d'avoir eu un Lotomba dans la lignée du match de Bordeaux. Alors, il y a eu entre-temps eh bien, cette déclaration, parce que je crois qu'il est passé en conférence de presse cette
Conf,
semaine, qui disait qu'effectivement, Farioli lui demandait peut-être d'être un peu plus défensif, tourné vers la défense. Donc, est-ce que ça explique le fait que il soit moins tranchant offensivement? Je trouve quand même que c'est très neutre, trop neutre pour être véritablement incontournable à l'OGC Nice. Et j'ai pris ma petite boule de cristal avant l'émission. Rosier à 100%, je pense qu'il va tout simplement déposer l'Otomba dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que t'en penses, Anto?
On le souhaite que si on peut avoir Cécile de dépose, c'est qu'il est vraiment meilleur, donc on peut souhaiter que ça. Après, son match n'était pas trop catastrophique non plus, c'était moyen en fait. Tu vois, contre Rennes, c'était catastrophique. Là, ça va, il a fait son match. Bon, bah, de temps en temps, tu vois, il a une petite éclaircie comme il a souvent. Mais sinon, globalement, c'est un Jordan Lotomba qu'on voit depuis le début de la saison. On peut regretter les sorties médias, enfin les sorties sur ces réseaux de Youssef Attal bien maintenant aussi. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. On va attendre Valentin Rozier. On espère que ça va vraiment faire la diff. C'est le bon
Nico,
match de Melvin Barre encore, au fait.
ouais,
Pour les
ton
latéraux.
ressenti un peu, on est sur la ligne défensive des deux, Melvin Barre. Alors, bon, forcément, je te questionne sur Melvin Barre parce que voilà, ça me fait plaisir de t'introduire du positif, mais
Non, mais il n'y a rien
défensivement,
à dire.
très très costaud. Est-ce que tu penses réellement que c'est une affaire de consigne, le fait que on ne voit pas autant les latéraux se
Ouais, je pense.
projeter? Parce que tu vois, moi, j'ai bien aimé. Je pense savoir que lorsqu'il joue avec un pied inversé sur le côté droit, comme il a fait avec Mohamed Ali Chow, il demande au latéral d'être beaucoup plus intérieur. Et
Mais c'est ça.
je trouve que dans le déséquilibre, pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça amène une densité axiale tout en ayant
Libérant les côtés.
voilà, tout en libérant les côtés.
Non, moi, mais c'est clair, comme l'a dit Anto, moi j'appelle, comme le dit Walid Archercheur, c'est des joueurs yaourt nature, tu vois, les Lotomba. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose, ça va faire le taf, ça va pas faire d'erreurs manifestes, mais à un moment donné, tu as envie d'un peu plus de folie. Mais je pense que c'est une question de consigne, parce que les 6 mois qu'il fait sous Digueur, ils sont très très bons. Alors, on voit qu'il se libère offensivement, il lui manque les stats, mais dans les intentions, dans l'investissement, il n'y a rien à dire. Là, il se contente de bien défendre. D'être dans un positionnement beaucoup plus axial, comme tu l'as dit, quand c'est pieds inversés sur le côté. Voilà, Melvin Barre, toujours pareil, quoi, très solide sur son côté, au duel, qui répond présent. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que nos latéraux fassent des allers-retours tout le match à la Dalbert et à la Ricardo Pereira. Ça, ce n'est pas ce qui est demandé par le coach. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus que lors des matchs précédents, quoi. Ils ont fait le taf, et puis voilà.
T'as parlé de Youssouf, Anto, j'ai senti dans ton propos que tu étais un peu déçu du match de Youssouf, qui retrouvait un peu cette place de titulaire aussi au milieu de terrain, place qu'il occupe hein, depuis le début de saison, quasiment non-stop. Là aussi, Nico, tu parlais de l'équilibre, et en fait, autant les latéraux, on peut comprendre qu'il y a une recherche d'équilibre, etc. Mais alors, c'est symptomatique en fait de je pense que recherche Farioli, c'est Youssouf. En fait, c'est se dire qu'on a ce défenseur supplémentaire. Mais alors, par contre, quand il est en possession du ballon, c'est
En
neutre.
fait, c'est le régulateur. J'ai l'impression que c'est le régulateur.
Bah ouais, mais non,
C'est-à-dire
parce que
que...
le régulateur va te réguler le flux aussi du jeu. Là, j'ai l'impression qu'il pose, mais que c'est passe courte, 4-5 touches de balle pour faire des passes à 4-5 mètres. Ça va pas te casser des lignes. Je rejoins un peu Anto là, je me souviens plus comme dans quelle émission c'était là, peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Rosario a quand même le mérite, je trouve, dans les tentatives, de venir casser des lignes, d'être beaucoup plus vertical dans la passe.
Vas-y, Anto, si tu veux.
Le match de Youssouf pour moi hier, il est. En fait, je ne le comprends pas en fait, c'est surtout ça. Alors défensivement, bon, il récupère ses ballons et tout, on sait ça, il n'y a pas de problème. Mais putain, avec le ballon dans les pieds, c'est une catastrophe, c'est calamiteux. J'ai vraiment ce souvenir à un moment où il est au rond central, il reçoit le ballon, il a 15 ou 20 mètres qui sont laissés par les Messins, et au lieu d'avancer un petit peu, de créer quelque chose, il envoie une saucisse à Mohamed Ali Chou en première période. Enfin, tu sais, tu fais, mais pourquoi en fait? Juste avance, prends ton espace, va fixer des mecs qui vont te libérer les autres. Et il ne le fait jamais. Et c'est ce que fait Pablo, par exemple Pablo Rosario. Et tu sais à quel point, Pancho, j'ai craché même sur les émissions sur Pablo Rosario. Mais ce mec-là, Pablo Rosario, maintenant, il mérite d'être titulaire à la place de Youssouf dans ce qu'il montre, parce que défensivement, il récupère ses ballons, peut-être un petit peu moins de volume que Youssouf. Mais offensivement, il t'apporte quand même quelque chose et ça te permet de créer un peu de décalage et tout. Parce que là, vraiment, c'était très. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très compliqué. Il m'a vraiment énervé hier, Youssouf.
Nico, Flo nous demande, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un défenseur supplémentaire au milieu contre des adversaires inoffensifs?
Non, mais là, pour moi, on aborde l'approche des matchs de Farioli. Pour moi, c'est un coach qui est pour l'instant très frileux. C'est pas quelque chose de péjoratif, mais il est frileux dans ses choix. Je pense qu'il a envie d'emmagasiner le maximum de points. Je pense aussi qu'il a retenu la leçon contre Lille en premier match. Je pense que ça lui a mis un bon coup derrière la tête d'avoir été ambitieux dans ce changement 1-0 et d'avoir été égalisé à la dernière minute. Je pense que depuis ce jour-là, il a un petit peu changé son approche dans le coaching. Bah, pour te dire, hein, j'étais juste derrière le banc des Messins. Quand tu marques le but sur penalty, c'est Bonani qui doit rentrer. Et tout de suite, tu retournes et c'est Rosario qui rentre. Donc, ça veut tout dire. Le fait qu'il continue avec son abord à droite, alors qu'il n'est pas bon offensivement, c'est parce qu'il sait que dans les replis, dans l'équilibre, il va être très important. Donc,
L'aborde, je précise quand même, décisif sur l'action menant au
bien
pénalty.
sûr, bien
Ouais,
sûr.
il est
Mais
beau
je n'ai même
là.
pas envie de le cracher dessus à l'abord. Je n'ai même pas envie de le cracher dessus. Et pourtant, je sais que ce n'est pas le style de joueur que j'aime. Mais je pense qu'il est dans ce qu'on lui demande et tout est une question de consigne. Youssouf, je suis persuadé qu'il est capable d'accélérer le jeu, de casser des lignes, mais je pense que Farioli lui demande vraiment de contenir, de garder le ballon, d'être tranquille. Et au contraire, tu as un Thuram qui est capable de percer. Sanson, moi, que je trouve sur courant alternatif et parfois un petit peu inutile. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment cette frilosité de Farioli qui, pour l'instant, moi, enfin, c'est le seul point noir pour l'instant chez Farioli, c'est cette. Ce manque de prise de risque, tu vois, à un moment donné, j'aimerais que qu'il tente un job en 8, quoi, par exemple. Peut-être qu'il n'aura pas le volume de jeu pour tenir 90 minutes, peut-être que ça va ouvrir un peu plus d'espace à l'adversaire. Mais quand tu joues des équipes comme Metz à domicile, qui viennent chercher uniquement le point du match nul et qui viennent poser un bus, voilà, il faudrait peut-être un profil un peu plus créateur au milieu. Mais après, pour moi, Youssouf, il doit être sur le terrain à chaque match.
Mais alors, excuse-moi Anto, est-ce que c'est pas aussi un risque que de dénaturer les qualités principales des joueurs? Parce qu'on sait que tu as le joueur en lui-même, tu as les qualités physiques, les qualités techniques, tactiques, tu as l'apport de l'entraîneur, et j'ai l'impression que dans le discours, il y a beaucoup, beaucoup de travail tactique. Il n'y a pas un risque d'user aussi, peut-être psychologiquement, les joueurs? Je prends un mec comme Youssouf. Effectivement. Hier, c'était sobre. Moi, ça m'a fait un peu rager parce que j'avais besoin de voir un jeu un peu plus emballé et emballant aussi, tout simplement, beaucoup plus vertical. Mais je me dis, finalement, combien de temps ça va tenir? Et il n'y a pas un moment où, tu sais, les joueurs, ils vont juste déconnecter totalement, quoi.
Bah c'est le risque si tu as vraiment une grosse période où tu es dans le sombre et que tu perds 5-6 matchs d'affilée. Mais après, Youssouf, moi j'ai l'impression que ça lui plaît aussi, ça, d'être dans ce rôle-là. Tu vois, en Coupe de France, c'était qui qu'on a battu en premier Auxerre?
Oui.
Quand il a ce rôle de troisième DC, on va dire, où c'est celui qui gérait les jeunes et tout. Mais là, je l'ai vu kiffer et je l'ai vu incroyable.
Ouais, mais il a joué un cran plus bas.
Ouais, mais c'est pareil, en réalité, le principe c'est le même. Tu vois, hier, il dépasse pas jamais ses latéraux. Donc. Dans l'idée, c'est pour ça que bah, je crois que c'était moi, j'étais là contre Auxerre, où en réalité, bah, ça change sur la feuille de match, mais en réalité, c'est à peu près le même jeu qui est proposé. Tu vois, où tu as Youssouf qui est un peu derrière, et au final, tu es 2-8 qui font vraiment un peu box-to-box,
Ouais, mais par
plus ou moins.
exemple, pour revenir sur le match d'Auxerre, pour prendre cette comparaison-là, tu as 2-8, tu as Claude Maurice et Belhayan, qui, de par leur déplacement et leur prise d'initiative, vont être beaucoup plus impactants et vont proposer beaucoup plus de choses que, par exemple, Morgan Sanson hier. Je pense que ce n'est pas Youssouf qui doit à chaque fois tout débloquer. Si tu regardes le match de Belhayan contre Auxerre ou de Claude Maurice, qui a perdu beaucoup de ballons, mais dans les déplacements, c'était ultra intéressant. Et la première mi-temps contre Auxerre, ben, je trouve qu'on a très bien joué au ballon. On a fait des super mouvements collectifs au milieu de terrain, il y a eu des décalages, c'était agréable à voir, parce que notamment tes deux relayeurs au milieu étaient capables de beaucoup plus bouger, Sanson et Thuram. Thuram le fait par séquence, mais dans les déplacements, c'était très statique, très souvent. Sanson, tu as l'impression qu'il est un petit peu de partout et nulle part à la fois. Donc je pense que chacun est responsable aussi un peu de cet état général, quoi. Tu
Ah
sens que
non,
c'est
mais.
très. Moi, je trouve le milieu très statique, en fait.
Ah, je suis d'accord avec toi. Hein.
Alors, vous parlez du milieu de terrain, messieurs. Vous parlez d'un milieu de terrain. Enfin, tu parles d'un milieu de terrain statique. Peut-on parler du match de Guéphren-Thuram? qui revenait à la compétition après plusieurs semaines d'absence. Il a joué 60-65 minutes en tout. Ton ressenti sur son match?
C'était la lumière en première période. C'est peut-être lui qui a amené le plus de show déjà, un petit peu. Il nous a fait un peu vibrer et tout. Et il peut marquer en vrai, peut-être même deux fois, s'il a un peu plus de réussite. Donc c'était bien. On retrouve un Kiefer Nturam qui a cette percussion et qui est capable de passer tout le terrain avec 10 mecs qui essaient de le courir derrière. Donc ça, c'est cool. Un peu plus intelligent aussi, qui sait lâcher le ballon quand il le faut. Donc c'était assez intéressant. Par contre, c'est sur courant alternatif, tu sens que de temps en temps tu le perds un petit peu. Alors après, il a été blessé et tout, il revient, donc je pense qu'il n'est pas dans le rythme. Et d'ailleurs, sa seconde période, elle est niveau Morgan Sanson, où tu le vois pratiquement pas. Et je pense qu'il fait bien de le sortir assez tôt parce qu'il est en manque de rythme. Donc voilà, c'est très bien de le revoir. Tu sens qu'il va falloir l'avoir sur la deuxième partie de saison et qu'il va faire grand bien. Et il va falloir trouver un bon compère à lui juste à ses côtés. Genre par exemple Hicham Boudaoui, au hasard quoi.
La bonne formule selon toi, Nico, associé Khéphren Thuram et Boudaoui, finalement c'était un peu la paire de 8 hein, qui était titulaire il y a quelques semaines avant la blessure de Thuram et avant le départ de Boudaoui à la CAN. Pour toi, c'est la solution et si oui, tu partiras avec qui au poste de numéro 6 à l'heure actuelle?
Moi, ici, je laisse Youssouf, je touche pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait ta force de jouer de cette manière-là et que ben, les résultats te prouvent que tu dois conserver cette recette-là. Donc, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout remettre en question. Pour moi, hein, je te parle en tant que coach, voilà, je ne bouge pas Youssouf du poste de numéro 6. Et après, effectivement, devant, je pense que je mettrai Thuram et Boudaoui. Boudaoui, parce que ben, voilà, c'est Hicham Boudaoui, il est de partout, il sait tout faire. Et parce que ben, Khéphren Thuram, même s'il est frustrant, parce que moi, je trouve que c'est un joueur qui est très frustrant. Il est capable de débloquer un match sur une ou deux séquences. Et voilà, il faut aussi compter sur Sanson, parce que Sanson a fait un très bon match à Bordeaux. Mais je trouve que Sanson a du mal à vraiment franchir ce cap supplémentaire. Et à... Enfin, moi, j'en attendais un peu plus de Sanson.
Ah ben t'es cohérent dans ce que tu dis parce que je me rappelle que tu en avais déjà parlé il y a plusieurs mois lorsque tu étais venu dans l'émission et tu avais tenu les mêmes propos et je te rejoins là-dessus. En fait, on a même été un peu dur ici après son match contre Bordeaux en disant que ses deux buts sauvaient un peu une prestation assez moyenne. Moi je trouve qu'il est effectivement, encore une fois, très actif. On va dire très actif, ça court, mais j'arrive pas à voir ni comprendre des fois l'intérêt ou vraiment l'efficacité de ce qu'il peut faire. Et moi surtout, le gros problème, c'est que je ne le vois pas assez offensivement. Il est pas assez présent. Et lorsque tu vois un Thuram qui est pas à 100%, gagne de l'espace et qui crée offensivement comme il a pu créer, parce que moi je trouve que vraiment on a vu un bon Khéphren Thuram. Une bonne heure de Khéphren Thuram, honnêtement, pour un retour de blessure, c'était ultra encourageant. Ouais, ça pose la question. Alors, oui, on a écouté hein, son passage dans RMC, le fait qu'il se voit à long terme, etc. Maintenant, reste à savoir dans quelle position dans l'effectif, quoi, on va dire.
Non, mais hier, son action, c'est vraiment du typique Morgan Sanson. Je sais pas si vous la voyez, il remonte un peu à la Khéphren Thuram, où tu sais pas trop ce qu'il fait, il veut chercher la board. Du coup, il tombe, il fait une passe du bout du pied, il perd le ballon. Enfin, c'est vraiment Morgan Sanson aussi dans le texte. C'est capable de gagner 15 mètres, mais quand il gagne 15 mètres, bah, il rate sa passe et tout ça. Donc c'est vraiment frustrant. Son match, il est pas bon hier. Bon, ça arrive. Il sera meilleur la semaine prochaine contre Brest,
Bah, je dirais
espérons.
pas qu'il est pas bon, tu vois. Enfin,
Ah.
je le trouve jamais mauvais. Je le
Ah, moi
trouve
j'ai trouvé
jamais
mauvais hier,
mauvais
toi.
et jamais très bon. Je le trouve toujours entre les deux. Et il a le mérite de, voilà, de beaucoup courir, d'essayer. Enfin, moi, personnellement, dans l'effectif, je le garde. Je jouerai nul la saison prochaine. Hein. À ce prix-là,
Ah bah de
il n'y
toute
a aucun
façon, je
problème.
suis même pas sûr qu'à l'heure actuelle on ait le choix, Nico.
Ouais, mais je pense que même les dirigeants comptent sur lui. Je pense que les dirigeants, quelque part, ils s'attendent à un petit peu mieux. Mais qu'en même temps, je te dis, à 4 millions sur le marché, t'as un mec qui connaît bien la Ligue 1, qui est capable de faire mieux. Je pense que c'est foncièrement un bon gars dans le groupe aussi. Donc, il n'y a rien de déconnant à ce qu'il reste Niçois la saison prochaine. Mais peut-être qu'aussi la concurrence peut lui faire du bien si on lui apporte encore un 8 supplémentaire. Mais ouais, Youssouf, Thuram, Boudaoui, ça me semble cohérent.
Messieurs, milieu de terrain passé, on va parler de la ligne d'attaque. Encore un match intéressant de Evan Guessant, on en a parlé. Qu'avez-vous pensé du match de Mohamed Ali Chow qui commence sur l'aile gauche, qui rentre en deuxième mi-temps sur l'aile droite? Est-ce que vous l'avez senti plus à l'aise, Anto, sur l'aile droite? On sent quand même que voilà, il a l'air d'avoir quand même plus de repères dans cette position-là.
Ouais, bien sûr. Après, hier, il a été pas trop en réussite. Souvent, il s'est, enfin, il est rarement passé tout ça, mais bon, ça va venir. C'est pas très grave. Il faut pas le juger tout de suite. Il faut attendre un petit peu. En tout cas, c'est un joueur qui va nous débloquer des situations. Et c'est vrai que j'ai vraiment ce truc où j'ai vraiment envie de voir une attaque composée de peu importe qui devant. Guessant, peut-être il a gagné sa place, tant
Alors
mieux pour lui.
justement, il y a
Et
une question.
Bogacho.
Anto, il y a une question. Je crois que c'est Nissardeta. Mince, je l'ai raté. En gros, ah oui, non, c'est peut-être Romain qui demandait qui on voit titulaire dans la ligne d'attaque au retour de Boga et Mofi. Pour
Bah,
vous,
le centre.
vos trois devants, vous mettez qui à l'heure actuelle?
Vas-y, Anto, si tu veux. Ça va être Laborde, Mofi, Boga.
Tu
Ce sera
retires
ça.
Guessant du 11 à l'heure actuelle? C'est
Bah,
dur.
Farioli
C'est
va le faire,
dur.
oui. Bah ouais, mais bon, le problème, c'est que Gaëtan Laborde, alors déjà, c'est de l'équilibre. Ça, Nico, il en a bien parlé et il a raison. Hein. Et puis, je ne vois pas Gaëtan Laborde et Terem Mofi sur le banc. Trois matchs d'affilée, tu vois. Parce que là, on parle d'une attaque qui commencerait tous les matchs en soi. On a tous envie de voir le show Boga Guessant. Voilà. Sauf que le problème d'Evan Guessant, c'est qu'il a un peu. Je pense que ça, c'est un truc qui doit frustrer un peu Farioli parce qu'on sait qu'il aime bien le pressing. Et pour l'instant, au pressing, c'est pas non plus le top qu'on est. Je pense que le meilleur, c'était Terem Mofi. Et par contre, Mohamed Ali Chow marque des points défensivement. Et ça, je l'ai noté. C'est quelque chose où on avait un petit peu peur qu'il fasse moins de repli défensif et tout. Hier, il a gratté quelques ballons et il se bat comme un chien. Il fait des gros retours, donc ça c'est important et je pense que ça compte dans le système Fraioli.
Et je rajoute quand même quelque chose, un très très bon pied. Il a super
Ouais.
bien tiré les coups de pied arrêtés, en atteste notamment l'action de Khéphren Thuram qui fait sa tête piquée arrêtée par Oukidja. Nico, ton ressenti un peu sur Mohamed Ali Chow, sur sa rencontre et
Bah,
sur,
il a été.
on va dire, le trio demain lorsque les deux joueurs africains rentreront à Nice.
Je ne pourrais pas te dire quelle formule serait utilisée par Fraioli. Je pense que ça va beaucoup permuter aussi. Bah, déjà, c'est un luxe de pouvoir compter entre Boga, Mofi, Guessant, Laborde, Chaud, Buonanni. Je ne sais pas s'il va partir ou pas. Baldé qui est toujours là et qui peut faire des rentrées intéressantes. Maintenant, Chaud, comme tu l'as dit, on l'a vu, je pense qu'il est plus à l'aise à droite. Après, le petit bémol que je ferais sur Cho, c'est que je ne sais pas si c'est une consigne aussi du coach, mais j'aimerais le voir prendre un peu plus la profondeur. Je trouve qu'il demande beaucoup de ballons dans les pieds. Et quand tu sais que ça, l'une de ses qualités premières, c'est la vitesse, je pense que parfois, justement, pour étirer le bloc et pour faire un peu reculer les défenses et varier les offensives, ça serait bien d'avoir prendre un peu plus la profondeur, que ce soit à droite ou à gauche. Maintenant, c'est clair que Boga nous manque, parce que Boga, voilà, il était capable, c'est le seul capable d'éliminer un contre un vraiment. Sur un match. Mais après, Mofi va revenir. Mais Mofi, il peut revenir quand il veut. Ça va être compliqué de sortir sans Dion, sincèrement. Déjà que Farlui l'estimait beaucoup et le faisait souvent rentrer, le faisait débuter à droite pour lui donner du temps de jeu. Avec ce qu'il montre depuis le début de l'année, là, il va falloir le sortir du 11, je pense, Guessant, sincèrement.
Ça va être compliqué, effectivement.
Mais on va pas se perdre.
Ah oui, non, mais
Non, non.
clairement, on est clairement sur des problématiques un peu de riches. Mais moi, en fait, je pense surtout à l'investissement qui a été celui fait par le board de l'OGC Nice quasiment un an jour pour jour maintenant sur Terem Mofi, en fait. Lorsque je vois les joueurs offensifs pris, lorsque je vois l'utilité que peut avoir en Evan Guessant dans le 11. Ok, Mofi pour le pressing et les efforts, mais j'ai du mal en fait à l'imaginer performant et modulable à la manière Farioli. Je sais pas ce que vous en pensez.
Mais moi, en fait, si tu veux, dans ce système-là de Farioli, c'est compliqué. Mais si tu regardes bien cette saison en Ligue 1, il y a très peu d'attaquants qui marquent beaucoup de buts. Par rapport à la saison dernière, il y avait énormément d'attaquants qui étaient presque à 15 buts, tu vois. Là, cette année, il y en a très peu. Donc, déjà, ça, c'est une donnée qui est à prendre en compte. Lui, il est déjà à 6 buts, mine de rien. C'est déjà, enfin, c'est respectable. Et après, je pense qu'il y a une donnée qui est très importante, c'est que Farioli a dit, on n'est pas encore l'équipe qu'on veut être. C'est-à-dire que je suis persuadé que cet OGC Nice-là, ce n'est pas l'OGC Nice que veut Francesco Farioli, que veut Florent Gzolfi, et qu'on est dans un processus de construction, de développement, et que dans ce qu'on va mettre en place d'ici quelques mois, j'en sais rien, j'espère le plus rapidement possible, Mofi peut vraiment s'éclater. Je
D'accord, ouais.
pense que là, il est mal utilisé parce que ben justement, on est dans cette approche de match où d'abord on défend, on presse, etc. Mais que quand tout va se mettre en place et quand on va commencer vraiment à assimiler le football façon Farioli, je pense qu'il peut s'éclater. J'ai plus de mal à imaginer Gaëtan Laborde exploser sous Farioli.
Ah oui.
Mais par contre, Mofy, il a tout d'attaquant moderne, puissant, il est rapide. Donc je pense que enfin, moi, je suis pas inquiet pour Mofy.
Ok.
Quand tu
Ouais, vas-y,
vois,
Anto.
pour ceux qui regardent un peu Brighton jouer, João Pedro, bon, alors c'est pas le même style que Mofy, mais il a quand même certains trucs où il a des similitudes. Et ce mec-là, il s'éclate dans une équipe qui va très vite, en fait. Et je pense que c'est Mofy à terme. Et de ce qui est ressorti de ce qui se faisait en Turquie pour Farioli, c'était que c'était justement un jeu qui allait très vite, où tu avais des transitions qui étaient incroyables. Alors c'est pas le cas en ce moment, c'est vrai, mais si à terme on veut ça, et peut-être que ça passera aussi par un mercato où tu vas rechanger 2-3 joueurs dans ton 11 pour remoduler un petit peu manière Farioli, bah peut-être que c'est là où on verra vraiment pas la forme finale, mais en tout cas une meilleure forme offensive du jeu Farioli. Donc faut pas enterrer Mofy. Maintenant, Guessant, il joue sa carte à fond, il a raison, et pour l'instant, il marque beaucoup de points, et franchement, bravo à lui.
De toute façon, Riolo l'a dit sur RMC quand ils ont fait l'entretien avec Farioli. Il a dit qu'il reconnaît avoir été très dur dans son jugement et que lorsque Farioli allait avoir les joueurs qu'il souhaitait réellement et que tout allait se mettre en place, on allait avoir un entraîneur de très haut niveau à Nice et un football hyper alléché et hyper plaisant à voir. Là, je pense que, si tu veux, là où on est très fort, où le staff est très fort, c'est qu'ils arrivent à donner du plaisir aux joueurs en leur demandant des tâches assez ingrates, notamment aux joueurs offensifs. Donc déjà, ça, c'est super positif, c'est-à-dire que dans le discours, tout le monde adhère. Maintenant, je pense que si tu prends chaque joueur individuellement à part et que tu leur demandes s'ils prennent du plaisir sur le terrain, je suis pas sûr qu'ils te répondent tous oui. Parce que bah, quand tu vois que Laborde, il est de quoi, à 3 ou 4 buts, je pense pas que ça lui fasse plaisir de faire 15 000 allers-retours. Il préférerait être devant les cages et, tu vois, enrouler des ballons. Donc je pense que petit à petit, ça va s'améliorer et les attaquants vont commencer à marquer. Et je pense que Mofi va exploser la saison prochaine.
C'est la première phase, on va dire, du projet, l'absorption des consignes et de la philosophie pour ensuite élargir ça. Moi,
C'est ça.
je pense
Tu poses les
aussi,
bases et ensuite t'affines.
je pense aussi qu'il y a autre chose, c'est que tout ce qu'on voit là, c'est aussi le fruit d'un travail de réflexion sur qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui en Ligue 1. Et je pense que la maîtrise du tempo en fait partie, la solidité défensive en fait partie aussi. On a vu des équipes gagner des titres de championnat, enfin de champion de France en ayant une très très bonne défense. Maintenant, c'est vrai que peut-être en tant qu'observateur, même en tant que supporter, bah moi je préfère, oui, peut-être voir un 3-2 à Bordeaux qu'un 1-0 tout pété à domicile contre Metz. Mais encore une fois, voilà, ça rentre aussi en jeu la sensibilité de chacun face à un match. Mais l'intérêt, c'est et l'essentiel, c'est que le gym gagne, et c'est ce qui est en train de se passer.
Non, mais en tout cas, là où on peut vraiment être fier de nous et fier de notre coach, c'est que dans une phase de construction, t'es deuxième de Ligue 1 et tu te rapproches très grandement d'en tout cas jouer une des deux premières grandes coupes d'Europe. Donc c'est cool, tu vois, c'est vraiment, ça en fait fier. Quand je pense qu'il y a des mecs qui l'ont appelé Francesco Ravioli en début de saison, c'est... Je dirais pas de nom. Bon,
Ouais, et puis tu vois rien que l'état
peut-être...
d'esprit qui se dégage de cette équipe. Tout à l'heure, on avait notre ami Messin qui se plaignait qu'il n'y avait pas de réaction sur le penalty accordé à Nice. Tu vois, à Nice, dès qu'il y a un joueur par terre, tout de suite on va autour. Enfin, tu sens qu'il se passe quelque chose dans ce groupe. Les dirigeants, ils sont pour beaucoup. Je pense que Ghisolfi est très fort pour fédérer, pour créer cet esprit famille. Et puis derrière, Farioli, à son âge et avec le peu d'expérience qu'il a, réussir à attirer tout le monde vers le haut, tout le monde derrière lui. Même ceux qui jouent pas, ils sont exemplaires. Est-ce que tu as déjà entendu un joueur se plaindre? Jamais. Peut-être qu'un Mbwanani ou un Baldé, ils sont pas contents, mais à chaque fois que tu les vois, ils sont tous sourires.
Ouais.
Dès qu'ils rentrent, ils ont envie de bien faire.
Non, mais c'est
Donc,
surtout aussi qu'il y a eu un travail de fait sur peut-être la communication et la gestion de groupe, tu vois, parce qu'on a vu quand ça avait un peu implosé lors de l'année, enfin, pas l'été dernier, il y a 2 ans. Bon, je pense qu'il a fallu aussi remettre de l'ordre sur ce qu'est un club de foot et quels sont aussi les éléments qui te permettent d'être bon
mais
sur
tu
le
as des
terrain,
patrons
quoi.
déjà. Tu vois, tu as des patrons, tu as des mecs qui incarnent l'autorité, qui imposent des règles. Et tu peux le voir. Je pense que déjà, Ferrulli a gagné en crédibilité le jour où tu vas à Lorient et qu'il met Mofy sur le banc et qu'il sort Todibo. Tu sors de
Totalement,
retard.
totalement.
Tu sors tes deux meilleurs joueurs et d'entrée, tu vois, même si tu as 34 ans, ok, bah, si vous êtes en retard, vous ne jouez pas, peu importe le statut. Ça, c'est très important. Et en fait, dans ce groupe-là, il a perdu personne.
Ouais,
Pourtant, il y en a qui jouent quasiment pas.
tu sais, même Rosario, même s'il a fait des matchs en dessous, il lui a vraiment donné beaucoup de crédit, que ce soit dans la presse, et même en le mettant un peu partout sur le terrain. Et tu montres aux jeunes que ben, par un état d'esprit irréprochable, tu vas jouer.
Et
Regarde
je
Louchet.
Tom Louché, ouais, je pensais à ça,
Voilà,
Tom Louché.
pareil.
Il en parle depuis cet été. T'as l'impression que t'as affaire à un joueur qui est là depuis plusieurs années et qui est intégré dans la rotation. Finalement, on sent qu'il le valorise autant qu'un joueur qui est autant investi dans le 11 qu'un milieu de terrain type Hicham Boudaoui, par exemple. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au match? Peut-être. Allez, on va peut-être clôturer sur votre MVP de la rencontre. Naturellement, la difficulté, c'est que vous ne devez pas choisir le même, hein, parce que sinon, c'est trop facile. On commence par Anto, toi MVP du match.
C'est dur. Ouais, Todibo. Hein. Ouais, je sais pas, c'est dur. Ton Todibo,
Ah, alors c'est. Ouais, c'est. Il n'y a qu'un seul.
c'est
Tu
dur.
es suiveur de NBA, tu sais qu'il n'y a qu'un seul MVP. Donc, Todibo ou.
Jalen Brunson. Non. non, Todibo. Todibo, quand même. Ça fait. En plus, ça me fait tellement plaisir de le revoir à ce niveau-là. Après son match un petit peu cauchemardesque la dernière fois. Donc non, Todibo.
Nico.
Nguessant. Guessant, pardon. Non,
Le
Evan Guessant.
lapsus.
Evan Guessant, sincèrement, Evan Guessant, dans l'abnégation, décisif, il obtient deux pénaltys, il en met un. Non, Guessant.
Ah, vous mettez dans une situation particulièrement confortable. Moi, je vais rester cohérent par rapport à ce que je vous ai dit. J'ai beaucoup aimé la production de Khéphren Thuram. Et par rapport au fait que ce soit un retour de blessure, je pense qu'il faut aussi le mettre un peu en avant. Matt nous pose la question suivante, les entrants. Anto, tu voulais parler des entrants, notamment. J'ai la feuille de match sous les yeux. Donc, Diop a remplacé Shaw. Claude Maurice remplace Thuram. Boudaoui remplace Sanson, je crois, de mémoire.
Et Rosario le tomba.
Et Rosario Lotomba. Ah ouais, Rosario Lotomba. Oui, j'avais pas fait gaffe. Ok. Anto, pour toi, les entrants, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé déjà par rapport au choix et à l'impact qu'il y a eu sur le résultat final?
Bah déjà, tu sais que des fois, je suis pas trop satisfait des entrants. Là, pour le coup, je trouve ils sont tous vraiment très bien rentrés dans leur match. Il y a personne qui a été en dessous. Bon, c'est vrai que. Je suis pas fan par exemple, du Perrault qui rentre en ailier. Je préfère un Louché qui est capable de défendre et à qui tu vas peut-être donner plus de temps de jeu. On ne sait pas où sera Romain Perrault l'année prochaine, mais en tout cas, je comprendrais s'il n'a pas envie de rester. Enfin, je sais pas comment ça se passe au niveau de l'option d'achat, mais qu'il a pas envie de rester. Après, tous les autres, c'est bon. Et bien sûr, je vais parler d'Alexis Claude Maurice et Sofiane Diop. Alors déjà, Diop, très bonnes entrées aussi, ça fait plaisir. Et on espère qu'il va continuer à remettre encore de l'espoir dessus. Je remonte dans le train. Et Claude Maurice, j'ai vu beaucoup de messages parler du fait qu'il faut qu'il parte, parce que dans 6 mois, il est sans contrat et tout ça. Moi, je suis pas trop d'accord, je trouve que c'est un joueur qui apporte. Alors, c'est pas tout le temps parfait, on est d'accord, hein, loin de là. Mais en tout cas, son entrée, celle de Sofiane Diop, ben, ça combine, ça joue au football, ça t'apporte autre chose, ça casse les lignes par les dribbles et par la passe. Et à chaque fois, je le trouve pas mauvais, en fait. Et je trouve que les critiques sont un peu exacerbées dessus. Et c'est surtout un mec. Pourquoi le faire partir pour 1 million ou 1,5 million d'euros maintenant, alors qu'il peut te rendre des services sur les 6 mois qui restent? Peut-être qu'on ne le prolongera pas, mais au moins, c'est un mec qui t'apporte quelque chose d'autre. Et moi, je le trouve assez intéressant.
Nico, ton ressenti sur les entrants et sur l'avis de Nanto sur Alexis Cole Maurice.
Bah, j'ai pas trouvé les entrants transcendants. Ils sont entrés dans le match, ils se sont mis directement au niveau de leur coéquipier. Pas grand-chose à dire. Après, sur Claude Maurice, moi je pense déjà que pour son bien, il faut qu'il parte lui. Je pense que voilà, à Nice, ça l'a pas fait, ça ne le fera pas. Faudrait qu'il parte. Maintenant, si pour le parti. Enfin, t'as perdu Belayane, donc tant qu'à faire, garde-le pendant 6 mois. qui, de toute façon, tu récupéreras quoi? Tu récupéreras 2 millions cet hiver. Tu récupéreras pas
Ouais,
grand-chose.
c'est
Il est en
clair.
fin de
Ouais,
contrat dans 6
maximum.
mois. Voilà, donc non, moi je le conserve les 6 derniers mois. Après, j'aimerais qu'on ne le prolonge pas, sincèrement. Parce que, comme je t'ai dit, là, il a jamais réussi à exploser ici. Je pense que c'est un joueur qui est pétri de qualité, vraiment. Je pense qu'initialement, c'est un top prospect. Mais c'est trop léger, c'est trop léger. Je sais que j'aime beaucoup ce joueur, hein, que je l'ai beaucoup défendu. Mais c'est trop léger, c'est uniquement par séquence, c'est pas décisif, c'est blessé. C'est pas un joueur fiable sur une saison pour une équipe qui souhaite jouer les premières places pour moi. Donc voilà, c'est bien de l'avoir en sortie de banc, je trouve, cette saison, c'est intéressant. Faut pas trop le critiquer non plus parce que bah, des fois c'est abusé, comme l'a dit Anto. Mais après, tu peux pas construire autour des mecs comme ça. Il prend peut-être la place d'un autre joueur dans l'effectif. Moi, de toute façon, j'ai un rêve pour cet été, si tu fais la Ligue des Champions, à ce poste-là. Maintenant, est-ce que c'est faisable ou pas, j'en sais rien.
Vas-y, dis-nous.
Bah, moi, je rêve de Fofana. J'ai cru comprendre qu'il voulait revenir en Europe. Il connaît bien Gisolfi. Est-ce que c'est faisable ou pas, j'en sais rien. Mais un mec comme ça pour remplacer Thuram, j'y pense.
Ok. Écoute, on verra. Tu as parlé de Belayan. On va terminer un peu cette émission. On a terminé le match et l'analyse du match. On va parler un peu mercato, messieurs, parce qu'effectivement, Anto est totalement défait le départ de Reda Belayan. Alors, c'était un peu surprenant, enfin, je pense, pour beaucoup, parce que on l'a vu entrer contre Rennes, on l'a vu aussi jouer contre Auxerre. On voyait qu'il arrivait quand même à se faire un peu de place, on va dire, dans la rotation. Départ donc à Vérone en Italie, 500 000 euros je crois avec un pourcentage à la revente. Bon, je vais aussi dire voilà, Amraoui en prêt à Nancy aussi en national et Buonanni éventuellement à Lorient. C'est les dernières informations, mais peut-être plus sur Reda Anto. Apparemment, c'est une volonté du joueur de ne pas poursuivre à l'OGC Nice. Il lui restait 6 mois de contrat. Est-ce que tu penses que Nice fait une erreur? Et le joueur fait une erreur de partir, tout simplement. Est-ce que tu aurais préféré qu'on le garde et qu'on fasse le forcing pour le prolonger?
Non, en vrai, bien sûr, je suis triste parce que j'adore le joueur et je trouve qu'il est très intéressant. Et j'espère et je pense qu'il fera une bonne carrière. Alors après, est-ce qu'il fera une grande carrière? J'en sais rien, mais en tout cas, il fera une bonne carrière. Maintenant, je pense que le deal, il est quand même bon parce que on lui a pas promis beaucoup. Et je pense que c'est bien parce que ça veut dire que le club a été honnête avec lui, à lui dire tu vas jouer des petits bouts de match ou pas du tout. Et lui avait envie de jouer, donc je pense que c'est gagnant-gagnant. Et s'il explose, je pense qu'il y aura un bon pourcentage à la revente. Donc voilà, c'est plutôt logique en soi. C'est vrai que moi je suis triste parce que je l'adore et peut-être que je regarderai quelques matchs de l'Elias Vérone. Je dis pas, c'est
D'accord.
possible que je m'inflige ça,
Tu vas
mais
te faire
non, je trouve ça plutôt logique.
en série B ou en série A le AS Vérone comme pour regarder l'affrontement entre Lucas Dacuña et Reda Belayan. C'est dire. C'est
Exactement, c'est
dire.
ça.
Nico, est-ce que ce dossier un peu Belayan, ça vient pas pointer aussi des difficultés qu'on avait déjà notées pour le club de tout simplement gérer ses jeunes. Belayan, c'est un jeune qui vient de l'INF Clairefontaine, qui est un peu le vivier numéro 1 en France.
Bon, qu'il l'ait plus, ça l'est plus. Hein. Enfin, moi je trouve que ça l'est plus. Quand je vois que Naonou il passait par Clairefontaine, je te pose des questions.
Ah, ok. Bon, écoute,
Non,
en tout cas,
mais c'est vrai que.
historiquement.
Non,
Histo
mais
ouais,
c'est moins réputé.
c'est vrai que là, tu m'as
Non,
refroidi
mais
tout d'un coup, là.
je trouve que c'est moins réputé. À une époque, c'était vraiment
Ouais.
la référence. Et le joueur qui passait par Clairefontaine, c'était vraiment le joueur à prendre. Aujourd'hui, ça l'est moins, je trouve. Il y a beaucoup plus d'exemples de joueurs passés par Clairefontaine qui n'ont pas réussi derrière.
Ok.
Tandis qu'avant, c'était beaucoup plus faible.
Donc, je repose ma question. Est-ce que ce dossier-là, ça vient pas aussi pointer peut-être une difficulté encore du club à
À
faire
faire confiance aux
confiance
jeunes, la
à ces
place.
jeunes et à l'engagement en fait dans le projet tout simplement?
Ouais. Moi, je pense que c'est toujours très compliqué d'allier performance, donner la chance aux jeunes. Enfin, c'est toujours très compliqué. Mais tu vois, par exemple, pour revenir sur Claude Maurice, moi, j'aurais préféré me séparer de Claude Maurice cet été et faire confiance à Belayan. Claude Maurice a eu sa chance, il ne l'a pas saisi. Ok, on se sépare en bon terme. Tu restes à Lens, Lens voulait le garder. Et puis tu fais monter dans la hiérarchie un jeune comme Belayan. Qui, même si en termes parfois de comportement, il pouvait faire des conneries au centre, ok, oui, il est un peu fou dans sa tête apparemment, mais c'est un joueur qui, sur le terrain, a toujours répondu présent, que ce soit avec les 17, les 19, la N3, avec le groupe élite, qui était capitaine du groupe élite, qui était capitaine en N3, qui a toujours été performant quand on a fait appel à lui en prépa avec les pros et sur les quelques entrées avec Digard. Donc, moi, j'en veux un petit peu au club là-dessus. C'était d'avoir conservé des joueurs comme Clem Ruiz qui étaient déjà en situation d'échec et de ne pas avoir fait de la place à un jeune comme Belayan, qui, je pense, méritait. Après, on ne connaît pas tout de l'intérieur. Peut-être que je me trompe et qu'il ne méritait pas. Mais sur ce qu'on a vu, en tout cas, il y a une petite déception. Maintenant, son choix, il est plus que compréhensible. Et je trouve qu'il est courageux aussi de sa part de se dire, OK, bah non, je m'en vais. Je vais chez le 18e de Serie A juste pour avoir du temps de jeu. Parce que ici, chez moi, j'en aurais pas suffisamment. J'ai envie de prendre ma carrière en main. Je trouve que c'est courageux de sa part. Je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite parce que il a vraiment un profil hyper intéressant parce que j'avais déjà évoqué ses qualités parce que moi je le suis depuis longtemps avec le centre de formation. C'est un joueur qui est très très fort techniquement, qui est formé en tant que numéro 10. Et généralement, on le sait, quand tu as des joueurs qui sont un peu créatifs comme ça, ils n'ont pas ce côté chien à aller se battre sur chaque ballon. Et lui, il l'a. Il l'a, je me rappelle d'un match avec la N3 à Cannes. Pendant d'ailleurs, il a pris rouge. Il avait pris rouge et c'était Belayan qui avait sonné la révolte et qui prenait le ballon, qui dribblait, quand il le regardait, il recourait pour aller se battre avec. Donc son choix est compréhensible, on lui souhaite beaucoup de réussite parce qu'il le mérite, je pense.
Aussi aujourd'hui a vu l'officialisation de l'arrivée de Maxime Dupé en lieu et place et bien de Salvatore Sirigu parti en Turquie. Maxime Dupé c'est clairement un deal, on va dire, d'une opportunité de mercato. Si vous voulez en savoir plus sur le joueur, il y a une vidéo qui est sortie vendredi ou non samedi matin sur la chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir.
Sans promo.
Petite promo, non mais on en profite, hein, on en
Non, il est bien
profite.
placé en plus.
La question est la suivante. Maxime Dupé, donc, pour contextualiser un peu, en échec à Anderlecht, numéro 2 d'un certain Kasper S. Voilà, j'en dirai pas plus. Mais c'est surtout, en fait, là je salue Gilles avec qui j'ai eu cette discussion-là. Te dire, tu le signes 2 ans. Et finalement, ça questionne aussi sur eh bien, Boulka pour l'été prochain. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où, eh bien, même si tu fais la LDC au mieux, Boulka qui part offre non refusable, ce monde n'existe pas?
Pour moi, non. Pour moi, il n'existe pas. Je pense que. Déjà, je ne comprends pas ce que Dupé vient faire à Nice, sincèrement, en tant que numéro 2, parce que c'est un gardien qui a le niveau pour
C'est
être
pour ça,
numéro 1.
parce que il a été numéro 1 à Toulouse pendant 3 ans, il a été très bon, vice-capitaine la dernière année en Ligue 1, il part en Anderlecht, il revient numéro 2 du top 3 meilleur gardien de France et sûrement pas 3e. C'est pour ça, je me dis.
Mais je pense que surtout, Gisolfi a été très très bon dans le discours. Alors après,
Est-ce
à
qu'on peut
voir ce qu'on lui a
s'attendre à le voir
promis.
en Coupe de France, par exemple?
Bah, c'est la question que je me pose parce que je sais aussi, je sais pas si quelqu'un en avait parlé, mais c'était prévu que Boulka joue tous les matchs parce que justement ils estiment qu'on a perdu du temps avec lui et qu'il faut qu'il rattrape un nombre de matchs considérable, donc il faut qu'il joue tous les matchs. Est-ce que ça rabat un peu les cartes au niveau de la Coupe de France? Je pense, parce que si tu fais venir Maxime Dupé pour qu'il ne joue aucun match, bah, c'est très très fort de la part de Gisolfi
William
parce que je
Eberse.
pense que voilà, mais c'est un mec qui ne posera pas de problème dans le vestiaire, je pense, Dupé. Je pense que ce n'est pas du tout le mec qui viendra pourrir l'ambiance ou polluer tout le monde parce qu'il ne joue pas. Donc, bah, gros, gros coup de chapeau, je pense, aux dirigeants parce que tu ne pouvais pas faire mieux, je pense. Tu perds Sirigu qui priait sur le banc pour ne pas rentrer quand Boulka s'est fait mal parce qu'il sait qu'il ne peut plus. Et tu récupères un mec qui était un super gardien en Ligue 1, qui a un super état d'esprit, sans garantie de temps de jeu. Bah, écoute, respect.
Anto.
Ouais, carrément, c'est. En fait, ce mercato est une masterclass, hein. En vrai, bon, on peut débattre sur les départs de Belayan, etc. Mais globalement, dans le sens des arrivées, c'est vraiment très bon. Tu récupères Rosier, tu récupères que un peu des coups, tu vas récupérer Shaw. Alors, on peut dire que c'est un peu cher, mais au final, bon, bah, c'est un prix d'un jeune que tu attends de voir très haut à 19 ans. Donc,
À qui
tu le
restait
prépares.
3 ans et demi de contrat?
Voilà, ça, tu le prépares pour l'année prochaine et tu vois, tu l'as un peu en avance et tout. Non, franchement, c'est très bon. Et Maxime Dupé, bah, tu te récupères un gardien qui avait sa place en Ligue 1 l'année dernière, qui a gagné une coupe, ce qu'on ne sait pas faire. Donc, il va aussi ramener ça. Non, mais c'est fou, mais
C'est
ça peut
dur,
être aussi important.
c'est dur ce que tu dis là, Anto.
Non, mais c'est dur à dire, mais en tout cas, c'est la réalité. Depuis que je suis né, on n'a pas toujours pas gagné un titre. Donc, je suis né un jour après la dernière Coupe de France. Donc,
Toi, tu portes la poisse en fait.
bah,
Eh
hey,
ouais, Anto, c'est toi qui portes la poisse. Mais c'est toi qui portes la poisse en fait.
Non, mais tu vois, donc tu récupères vraiment, je pense, un mec qui est cool. Après, pourquoi il vient à Nice? Je pense qu'il avait vraiment envie de sortir d'Anderlecht.
Ouais, je pense.
Celui dont on ne prononce pas le nom, je pense que ça doit être infect de travailler avec lui. Et je crois que je sais plus qui c'est l'insider un peu belge là.
Sacha
Ouais, c'est ça,
Tonen,
exact.
ouais.
Libéré, ouais.
J'ai vu un extrait vidéo où il parlait justement de ce Michel où il était horrible avec les autres. Et je pense qu'il a dû dire, bah, tant qu'à faire, on va se casser de là, on va aller à Nice où il fait beau. Je vais aller à la plage, je suis numéro 2. Et au cas où, l'année prochaine, peut-être que je peux gratter un match de Ligue des Champions si l'autre il se blesse un peu.
Qui met de la crème sur le crâne hein, parce qu'il est blanc.
Il y a aussi le fait que
Crème.
Boulka l'année dernière s'est blessé 3-4 mois. Il y a aussi cette donnée-là aussi. Hein, c'est un peu un joueur qui est susceptible de se blesser. Mais c'est vrai que, bon, je pense quand même que. Je ne dis pas que Maxime Dupé va être titulaire l'année prochaine à l'OGC Nice. Mais je dis que Marcin Boulka, c'est un gardien qui est PL compatible, qui parle anglais.
Ouais.
Et si t'as un club qui vient et qui pose 50 bâtons sur Boulka, eh ben Gizolfi, il fait quoi? Tu vois?
Bah non,
Mais à
moi,
voir,
Boulka, il
t'as
part
pas
pas à
besoin de
l'OM
vendre.
223 millions. C'est le
Cet
record ouvrier.
été,
Hein.
tu vas sûrement perdre Todibo et Thuram, donc tu feras deux grosses ventes déjà. Donc tu n'auras pas besoin de vendre un troisième joueur, déjà, je pense. Et je pense que Boulka ne se voit pas ailleurs qu'à Nice. C'est sa première saison complète en France, enfin en pro, ça on l'oublie, mais c'est sa première vraie saison au haut niveau. Et je ne le vois pas partir au bout d'une saison, surtout s'il a la possibilité de jouer à la Champions League. Je pense qu'il est aussi très reconnaissant de la confiance qui lui a été accordée par le coach et par les dirigeants. Il est adoré par les supporters. Donc pour moi, ce monde-là n'existe pas. Maintenant, tu avais annoncé Melvin Barthes, top 3 arrière-gauche, donc ça me fait très peur ce que tu dis.
J'avais
Ouais.
annoncé Melvin Barr, plus précisément, nominé dans
MB.
les aiglons de la saison. Voilà.
Ouais, ça me fait peur ce que tu dis, parce que quand
MIP.
on pense que tu dis une connerie, il se passe ça, tu vois, quand tu tombes battu à
Bah ouais. Mais un petit point juste pour clôturer, messieurs. Badreddine Bouanani. On a vu qu'il était à deux doigts de rentrer juste avant le but de Guessant. On sait qu'il est éventuellement en partance pour Lorient, en prêt sans option d'achat. Alors, la modalité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un prêt sans option d'achat, c'est peut-être ce qu'il lui faut. Maintenant, la question qui a un peu, on va dire, étonné, c'est la destination. Actuellement, Lorient est relégable, a des soucis, d'effectifs, de mercato, peut-être un discours aussi avec le coach qui ne passe plus. Qu'est-ce que vous pensez de la destination pour Bonani? Concrètement, est-ce que vous êtes plutôt convaincu du fait que dans un contexte un peu compliqué, ça va l'endurcir et il va laisser gratter sa place de titulaire? Parce que finalement, là, j'ai l'impression que d'un club à l'autre, il va se retrouver pareil, à savoir un entrant qui va gratter ses 20-25 minutes de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vas-y
Vas-y,
si tu veux,
Nico.
hein, je sais pas.
Ouais.
Le truc c'est qu'il y a Fèvre à Lorient déjà qui joue à droite. Donc est-ce qu'il va jouer à Lorient, c'est une question. Moi ça me enfin, concrètement, hein, d'habitude je suis pas trop dans ça, mais ça me fait chier d'arranger Ferry, déjà. Maintenant, il faut qu'il joue. Enfin, moi, je suis persuadé que c'est un top talent, vraiment. Je pense que c'est un. Il a tout pour devenir un très très grand joueur. Je le pense sincèrement. Tu vois des trucs en lui que tu n'as pas l'habitude de voir. Il y a des aptitudes qui sont énormes. Est-ce que Lorient, c'est la bonne destination? J'en sais rien. Comme je dis, le fait peut-être dans un contexte compliqué, ça peut l'endurcir. Ça peut lui permettre de progresser. Mais en même temps, est-ce que pour le développement d'un jeune joueur qui est justement à la recherche de confiance et de repères, c'est une bonne chance d'aller là-bas? Je ne suis pas sûr.
Anto?
Moi je suis pas du tout pour. Alors le Ferry, je m'en fous un peu honnêtement. Dans le football, je pense que ça se brouille souvent et que
Juste
voilà, on
av
revient.
avant que tu continues, Anto, il y a Flo qui nous dit, j'avais vu passer ça aussi, qu'il y avait la possibilité que Fèvre parte en fait et retourne en
Ouais,
Angleterre.
mais ça fait 30 jours qu'on l'entend et pour l'instant il est toujours à Lorient, donc
Voilà ce que j'allais
on approche de
dire.
la fin, quoi. Après peut-être, hein, mais après moi c'est pas même pas le souci. Je pense qu'il jouera et qu'ils trouveront une place et tout. Mais le truc, c'est que on en a parlé beaucoup avec Pancho quand on a fait le déplacement à Rennes, où on a eu une grosse discussion après avoir pas vu notre équipe tirer pendant 70 minutes dans un parcage où il faisait moins 12, sur les prêts des joueurs. Et en fait, moi, je suis pas un grand fan des fois des prêts. C'est-à-dire que tu vas envoyer Bonani dans un vestiaire qui est pourri. Honnêtement, hein, voilà, tu l'as vu, Ferry, il fait une déclaration où il dit, bah, les mecs se prennent pour des stars, ils dégagent. Ok, d'accord, mais c'est génial, bon contexte pour envoyer un jeune. Alors peut-être ça l'endurcira ou peut-être ça va complètement le perdre. Et en plus, tu vas dans des principes de jeu qui sont tellement éloignés de Farioli que le mec va peut-être progresser, il va prendre de la confiance, mais pas sur ce que va lui demander Farioli. Et en fait, je pense que clairement, c'est peut-être mieux de le garder à Nice 6 mois et qu'il continue à travailler, à prendre quelques minutes par-ci par-là et petit à petit. Ou alors l'envoyer par exemple à Auxerre, tu vois, où ça travaille bien, dans des clubs au moins qui travaillent bien, que de l'envoyer à Lorient. Moi, je suis pas du tout satisfait s'il va à Lorient. Après, peut-être que je me tromperai, peut-être qu'il va revenir en feu, mais j'ai énormément de doutes.
Ouais, j'avoue que j'ai un peu de doute aussi. Alors, pas de problème avec Lorient, on va dire. Là, on va pas vous parler de Loïc Ferry et du deal de Mofy, hein, même si
Que du
ça.
PSG.
Non, voilà, mais le truc, c'est
Le titre.
que. C'est qu'en fait, ça pose quand même question du contexte, en fait, du contexte dans lequel il va se trouver, des problèmes que rencontre Lorient aussi. Voilà, enfin là, clairement, il va devoir, s'il y va, arriver, se mettre au niveau direct, ne pas avoir de. Voilà, il faut pas qu'il y ait une période un peu de transition. Il va arriver début février. Enfin, vous voyez, ça risque d'être compliqué à gérer pour lui. Après, s'il y arrive et qu'il arrive à être titulaire et à sauver Lorient, mais dans ce cas, on pourra dire que le prêt a été génial. Mais là,
Dépend.
quand même, j'ai pas l'impression que ce soit le meilleur move possible.
Parce que en vrai, même si on l'envoie à Lorient, même s'ils savent pas, enfin, franchement, j'en ai rien à foutre de où finisse Lorient à la fin de la saison. L'important, c'est le joueur. Et même si qu'il sauve Lorient ou pas, faut que ça lui apporte quelque chose d'être allé là-bas, vraiment, tu vois. Pas que ça soit juste, ok, il a fait 2 passes décisives, un but.
Ouais, mais la
Tu
question
vois ce que je veux
c'est,
dire?
est-ce que ça va lui apporter quelque chose vraiment pour lui si il joue juste un peu plus que ce qu'il joue actuellement? Est-ce qu'il y a uniquement l'histoire du temps de jeu, tu vois?
Ah bah c'est la discussion qu'on avait.
Voilà, tu vois, est-ce que c'est qu'une question de temps de jeu? Est-ce que c'est pas aussi une question de nouveau vestiaire, nouveau contexte, nouveau joueur, nouveau discours, tu
Après, ils se
vois?
connaissent tous. Franchement, ils se
Ouais.
connaissent tous
Tu
entre les
vois,
sélections de jeunes.
Bonani, je trouve que même si c'est très court et tout ça, ce qu'on voit, bah depuis de la saison, il y a vraiment du progrès dans son attitude, dans ce qu'il dégage dans le système entier de Farioli. C'est beaucoup mieux. Avant, on avait vraiment ce truc où c'était très laxiste et juste sur au pic. Maintenant, il est un peu plus intelligent, il pose un peu plus son jeu et tout, et il fait pas toujours la même chose. Donc finalement, il progresse sans beaucoup jouer. Donc voilà, la question, elle se pose.
La
Moi, je pense, moi, je
question
le garderai.
est posée, on verra. Messieurs, 1h20 d'émission, beaucoup, beaucoup trop long, mais ce n'est pas grave, ça a fait plaisir de revenir sur ce match, sur cette victoire de l'OGC Nice qui consolide cette deuxième place, série historique à l'Alliance. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le déplacement à Brest, l'horrible Brest. Aïe, 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 attention,
Qui perd 1-0
la
là.
communauté brestoise qui va me tomber dessus. Non, non, non. Le Brest d'Éric Roy qui fait du bien bon travail. Merci pour votre présence, toutes les personnes sur le chat, pour vos interactions. Émission disponible dès ce soir sur YouTube et sur Spotify. N'hésitez pas à aller checker le numéro sur Maxime Dupé qui est disponible sur YouTube et sur Spotify également. Anto, Nico, merci pour votre venue, les gars.
Merci à
Merci beaucoup.
toi.
Et puis merci également à Socket pour sa venue dans la première partie de l'émission. Très très bonne soirée, bon début de semaine. Et puis à la semaine prochaine. Ciao et Sanissa.
Champions, ta ta ta.